mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Nous sommes avec l'équipe d'ACA, Agir Ensemble contre le chômage. Je suis avec Ludo aujourd'hui au micro. Bonsoir Ludo, Gilles également et bien sûr Claude à la technique. Voilà, nous parlerons ce soir, comme à chaque fois, bien sûr, de tout ce qui nous fâche, donc de principalement de, des négociations UNEDIC qui sont en train de démarrer en ce moment, qui vont s'éterniser pendant un certain nombre de mois sur l'année. Voilà. Et nous parlons également de tout, de des contrats courts, de, également des témoignages de, d'une personne de Pôle emploi, parce qu'ils sont en burn-out à Pôle emploi, étant donné qu'ils ont un portefeuille de chômeurs très important. Et ainsi, d'autres sujets, bien sûr, concernant le chômage et la précarité, comme d'habitude. Alors pour lancer cette émission un petit peu, pas particulière, mais ressemblant un peu à nos émissions d'habitude sur le chômage et la précarité, qui est un sujet un peu difficile puisqu'il y a bien des choses qui se passent et qui sont un petit peu difficiles à vivre pour les chômeurs. Nous commencerons par une chanson un petit peu humoristique, et c'est la Parisienne libérée que vous allez entendre.
Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité.
Il y a une indemnisation, mais il faut s'assurer que chacune et chacun recherche bien l'emploi qui peut être offert, et que lorsqu'un emploi correspond à ses compétences, il le prend. Les quelques-uns qui abusent des règles, c'est normal qu'ils soient contrôlés. Voilà.
Contrôler les chômeurs et puis les réfugiés. Contrôler les jeunes au pied des cités. Contrôler les gens qui les aident parfois. Contrôler les agents qui contrôlent tout cela. Flashback, mars 2017, le programme est bouclé, c'est la fête. En Marche s'élance et annonce un sabotage du dispositif d'assurance chômage.
Je propose un changement profond en termes de répartition des rôles entre le pouvoir politique et les partenaires sociaux.
Je propose d'augmenter les pouvoirs de l'État, autrement dit mes pouvoirs à moi, et de diminuer ceux des syndicats. C'est aussi simple que ça.
Nous avons des partenaires sociaux qui sont insuffisamment présents, vivants, si j'ose dire, dans la branche et dans l'entreprise, et qui s'expriment sur des débats nationaux, parfois de manière, à mes yeux, indue.
Qu'on mette ces groupements d'illettrés au placard et qu'on me rende enfin ce qui appartient à César. Ainsi parlait, non pas Zarathustra, mais un ambitieux banquier de son état. Il lui semblait qu'il serait fort pratique que certains syndicats arrêtassent la politique. Non point qu'il eût peur, mais on ne sait jamais. Et une révolte est si vite arrivée. Pour agrémenter sa potion amère, il y mettait ses formes et ses gentilles manières. Tant et si bien qu'on vit peu de gens frémir quand il annonça qu'un monde allait périr.
Ce que je propose, c'est de remettre cela en ordre. Ça veut dire que pour le chômage, je propose de changer la gouvernance du système. Je dis le chômage, c'est un risque universel qui touche toutes les catégories, agriculteurs, artisans, commerçants, entrepreneurs.
Bloop, bloop, vous voyez ce lapin? Je le tenais pourtant là, dans ma main. Où est-il passé? Comme c'est rigolo, voilà qu'il apparaît dans mon chapeau.
En même temps, j'en change la règle parce que je dis, c'est un système universel. Et donc j'indemnise tout le monde. Mais derrière, comme c'est universel, il n'y a pas de droit acquis au chômage. Et donc je peux contrôler tout le monde. Vous ne pouvez plus me dire j'ai droit au chômage pendant X mois parce que j'ai cotisé X mois pour avoir ce droit. C'est fini.
On ne peut l'exprimer plus clairement que lui. L'assurance chômage, eh bien, c'est fini. Cela paraît fou, impossible, impensable. Mais si on se laisse faire, c'est sûrement faisable. Passons sur le fait qu'il nous indemnise comme s'il sortait des liasses de sa propre valise. Et arrêtons-nous sur le mot derrière, à considérer dans sa polysémie entière.
Derrière, comme c'est universel, il n'y a pas de droit acquis au chômage.
Derrière donc, le chômage n'est plus un droit. Tu payes plus de cotises, alors ferme-la. Derrière un masque d'universalisme, une vieille utopie du néolibéralisme, un salarié sans droit au chômage, travaillant jour et nuit et même davantage, obligé pour survivre de s'endetter et d'enrichir son banquier. L'État gère le chômage, donc ça n'est plus un droit. Mais bien entendu, cela va de soi. Mais si c'est plus un droit, alors c'est quoi? Une petite faveur, une bonté du roi.
Et donc je peux contrôler tout le monde?
Le contrôle, c'est un accompagnement avant tout. Contrôleur-conseilleur, ça me plaît plus que contrôleur-sanctionneur.
Augmenter l'emprise du contrôle par la peur, en particulier celle de devenir chômeur, ou quand on l'est déjà, celle des lendemains. Que d'aucun manie comme un lapin. Mais pourquoi ne pas optimiser le process? N'importe quel avatar pourrait bien dire la messe pour un service public libéré, toujours plus près de ses usagers.
Bienvenue, petits chômeurs et fraudeurs. Je suis l'agent X, contrôleur conseilleur du PEP, le pôle emploi performance. Pardon d'interrompre tes vacances. Je suis l'État et je vais m'occuper de toi. Le chômage n'est plus un droit. Merci de définir d'une voie naturelle ton choix de formation professionnelle. Bip, 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 bip.
Mais je ne demande aucune formation. J'ai juste un problème avec mes allocations. Depuis 2 mois, mon dossier est bloqué. Impossible de joindre un conseiller.
Attention, petit chômeur et fraudeur. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur. Je répète, mais c'est la dernière fois. Pour ta formation, quel est ton choix?
Bah je sais pas, qu'est-ce que vous avez?
Cette phrase ne comporte aucun mot-clé.
Alors disons, révolution.
Excellent choix, félicitations. Bip, 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 bip. Comment devenir auto-entrepreneur? Ta formation commence dans 1 heure. Es-tu disponible? A priori, oui. Alors valide ton choix en disant merci. Bip, 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 bip. Tu n'as pas dit merci, tu manques de bienveillance, autant que d'ambition, tu as loupé ta chance. Au bip final de cette conversation, la basse procédera à ta radiation. Je te souhaite bon courage pour la suite, ainsi qu'une belle année 2018. Bip, 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 bip.
Ça vaudrait vraiment le coup de lutter contre ça, que l'on soit jeune ou vieux, et chômeur ou pas. D'autant que pour la suite, Sa Majesté l'Empereur a d'ores et déjà annoncé la couleur.
Sur le projet des retraites, c'est vers la même transformation que nous allons.
Au fait, si tu veux contracter un prêt bancaire, sache que l'État est désormais partenaire de la formule de crédit Assaïra, spécialement conçue pour les gens comme toi. Et, cerise sur le gâteau, il est déductible de tes impôts. Assaïra, disponible dans toutes les agences de Pôle emploi performance. Bip.
Et oui, c'était La Parisienne libérée. Effectivement, c'est très drôle. Je viens de découvrir en même temps que vous le texte de cette chanson. Ça dit bien les choses telles qu'elles sont, en fait, hein, pour le coup. Voilà, beaucoup plus de surveillance, hein, et puis de remontrances, on va dire, pour le coup.
On a envie de dire qu'elle a tout compris, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on la passe, parce que...
Ça se passerait presque de commentaires. Ouais. Voilà, mais j'ai... Non, pas toujours. Il faut toujours commenter.
Je voudrais préciser un peu mes chiffres. Depuis les 200 premiers jours de la présidence Macron, il y a
51 500 chômeurs de plus, donc ce qui est quand même important, voilà. Donc justement par rapport à ce problème d'UNEDIC, parce que l'UNEDIC actuellement est en train de démarrer, en fait les négociations UNEDIC sont en train de démarrer, ce sont les négociations 2017-2018. Exceptionnellement cette année elles vont prendre un certain nombre de temps puisqu'elles vont se dérouler sur à peu près 7-8 mois, 10 mois,
peut-être un an,
ce qui est quand même assez rare depuis le début des négociations.
Oui, il faut expliquer qu'il y a un énorme chantier, c'est que d'une part les négociations de 2016 avaient été interrompues sur un désaccord manifeste entre voilà les syndicats et le patronat, et aussi en raison de l'élection présidentielle, puisque
oui, c'est voilà vrai.
Et surtout il arrive un chantier, l'énorme chantier de monsieur Macron dont on parle très bien à La Parisienne libérée, qui consiste effectivement à supprimer les cotisations chômage sur vos feuilles de paye au nom d'une à la fois soi-disant d'une augmentation du pouvoir d'achat des salariés,
oui.
Mais en réalité, bon, c'est il s'agit aussi de faire moins payer de charges aux entreprises en fait, hein, c'est
ça, fait.
De charges, excusez-moi, de cotisations sociales assimilées comme des charges évidemment par
mais
certains.
Ça sous-entend aussi un point supplémentaire de la CSG ou
alors forcément, c'est-à-dire que les recettes qui ne sont pas affectées, c'est assez conséquent, hein, parce
c'est
que
conséquent, oui.
Les recettes qui ne sont pas affectées à c'est des recettes qui ne sont pas affectées à l'UNEDIC. L'UNEDIC qui est déjà déficitaire, qui a un déficit cumulé de 32 milliards et qui a à peu près un déficit annuel de 3 milliards. Ce qui, au passage, hein, ce correspond exactement au fonctionnement de Pôle emploi, à peu près. Et on peut se demander s'il n'a pas été plus judicieux de sortir juste Pôle emploi, de prendre en charge le financement de Pôle emploi de façon à pouvoir prétendre à enfin que l'État prenne en charge, hein, le financement de Pôle emploi, et au lieu de le faire reposer sur les cotisations sociales, de façon à ce que le régime puisse être équilibré. Voilà, d'autant que certains économistes avaient prédit que dans les années à venir, peut-être que l'UNEDIC serait de nouveau à l'équilibre. Évidemment, c'est des gens de l'OFCE qui avaient dit ça.
D'accord.
Des gens, bon, des keynésiens. Ouais. Mais du coup. Du coup, le manque à gagner est énorme et il faut forcément le compenser. Et donc, à part l'augmentation de la TVA, personne n'en a trop entendu parler. Donc, c'est bien la CSG qui risque de, sur votre feuille de paie, la CSG qui touche tout le monde en fait. Hein, c'est-à-dire à la fois le salarié, l'entreprise. Alors, du coup, voilà tout le débat d'ailleurs qui a été. Dont on a entendu parler hein, ces derniers jours, de savoir si finalement l'augmentation de la CSG risque pas, au vu de toutes les impôts, les baisses d'impôts qui ont été organisées par ce gouvernement, si la hausse de la CSG serait pas suffisamment importante pour en réalité gréver le budget des ménages, des salariés finalement.
Alors moi, juste pour préparer cette émission, j'ai regardé une ancienne fiche de paye que avant l'euro, donc c'était dans les années 98 à peu près. J'ai regardé par rapport à la cotisation salariale, donc pour l'employé, hein, pour le salarié, par rapport au chômage, c'était dans aux alentours de 6,8% sur le salaire pour le chômage. Et pour le patron, c'était à peu près équivalent, un peu moins ou un peu plus, je ne me souviens plus très bien, voilà. Alors aujourd'hui, par contre, là, pour 2018, le taux global de l'assurance chômage, donc le pourcentage, c'est donc 5% hein, pour l'assurance chômage. La part salariale, c'est 0,95%, et la part patronale, 4,05%. C'est-à-dire c'est rien du tout, c'est 5% du salaire qui ira pour le chômage. Alors ce qui me fait retourner sur un autre sujet, c'est ce qui a été dit dans la chanson, c'est que ce n'est plus un droit acquis apparemment le chômage, enfin voilà. Alors que c'était normalement un dû, parce que tu payais pour justement bénéficier des chômages.
Absolument, c'était un système assurantiel.
Tout à fait.
C'est-à-dire que en fait on cotisait l'ensemble global des salariés, l'ensemble des salariés cotisaient pour assurer le risque de quelques-uns. Et ça devient un régime indemnitaire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on te, un peu comme le RSA, on te lâche une allocation, comme elle le dit très bien dans la chanson, qui peut être redéfinie en dehors de l'accord de négociation paritaire, et donc à la baisse, juste au choix en fait du gouvernement en place. Donc effectivement, c'est un gros risque pour les chômeurs, évidemment, de moindre indemnisation, parce que en plus la réforme, les besoins de financement sont très importants en fait, d'autant que la future réforme prévoit d'indemniser une partie des indépendants. Ça reste à négocier, mais ils ont cette consigne qui vient du gouvernement, et les démissionnaires, ou une partie des démissionnaires.
Mais pas tous, ouais, c'est ça.
Pas tous, mais ça fait l'objet de la négociation, mais donc, sachant que le régime lui est en déficit, donc ça augmente les besoins, et donc il est fort probable qu'en réalité, les chômeurs se retrouvent avec une allocation à la baisse, ouais, ça paraît assez évident. Et donc, comme le dit finalement, on se prépare à précariser encore,
ou des précaires, encore
des précaires et des chômeurs en fait, et c'est eux qui payent le coût des réformes, pas que bien sûr, hein, mais en partie, enfin en tout cas c'est les plus fragiles qui payent le coût des réformes de Macron, ce qui est une tendance lourde ces dernières années, à baisser l'indemnisation. Donc voilà, et on sort pas d'une logique, ça, si vous ajoutez ça à la baisse, à la loi travail, une espèce de dérégulation du code du travail qui renvoie un certain nombre de règles qui étaient jusqu'à là définies par la loi à l'accord entre entreprises, plus les baisses d'impôts qui sont sur les ménages les plus élevés, et ben en fin de compte on va faire porter le poids de la crise et le poids des réformes économiques sur les plus précaires et la classe moyenne.
D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure effectivement de l'UNEDIC, on va écouter juste un petit son de Pénicaud qui on vous en a déjà deux, non? Bon, donc je voulais juste
non mais
oui d'accord. Très bien. Donc on va juste rebondir sur effectivement le problème de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'UNEDIC, les négociations UNEDIC commencent un petit peu dans la fureur, puisque apparemment un certain nombre de syndicats sont déjà vent debout contre le MEDEF.
Alors,
pour le coup.
Il faut préciser que les accords donc ont été suspendus en 2016.
Tout à fait.
Et pour quelle raison? Ouais. Et je crois qu'on va l'entendre.
Ah d'accord.
Bonjour à tous et à tous. Alors, on vous avait dit avant de partir qu'il n'y aurait pas de surprise, que la négociation allait s'interrompre dans les minutes qui suivaient. Bon, effectivement, le MEDEF nous a présenté un texte en entrée négociation, considérant que nous décidions de l'interruption de la négociation, ce que nous avons corrigé, puisque nous n'avions rien décidé, nous voulions négocier, mais que c'est le MEDEF qui porte l'entière responsabilité de l'échec. Pourquoi porte-t-il l'entière responsabilité de l'échec? Bah, tout simplement parce que le MEDEF ne veut absolument pas discuter de recettes nouvelles pour le régime d'assurance chômage, mais par contre entend faire des centaines de millions d'euros d'économies sur le dos des privés d'emploi, notamment des plus fragiles, puisqu'il s'agit de pénaliser ceux qui sont en activité réduite. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour répondre aux injonctions de Bruxelles, puisque comme vous le savez, le ministre de l'économie Michel Sapin, ministre des Finances, était allé en octobre à Bruxelles vendre qu'il pouvait obtenir 800 millions d'euros d'économies dans le cadre de la négociation assurance chômage. Donc ça veut dire que le combat n'est pas terminé, car du fait de l'interruption par le MEDEF de la négociation, c'est maintenant l'État qui va reprendre la main et qui doit sortir des décrets. Nous demandons, pour ce qui concerne la CGT, d'abord à ce qu'il y ait une prorogation de la convention actuelle pour que les demandeurs d'emploi ne soient pas pénalisés au 1er juillet et puissent percevoir leurs allocations. Mais nous demandons également et nous exigeons que l'accord intermittent, et je donnerai la parole bien entendu à Denis ensuite, mais soit intégré dans ces décrets pour qu'il s'applique au 1er juillet de cette année, et y compris que des mesures soient prises pour que des recettes nouvelles puissent être intégrées dans la prochaine convention qui sera agréée par l'État, qui sera du coup de la responsabilité de l'État. Dans les propositions de recettes, je le rappelle rapidement, mais nous en avions fait 4. La première, c'était une surcotisation sur les contrats courts. Ce sur quoi, je vous rappelle, le gouvernement avait dans un premier temps accordé cette surcotisation, mais M. Gattaz avait éternué un peu fort, et donc le gouvernement avait reculé en finalement enlevant de la loi travail cette surcotisation. La deuxième, c'était un article qui émanait des négociations sur l'AGIRC et l'ARCO, puisque nous devions discuter, dans le cadre des négociations chômage, d'une contribution sur les ruptures conventionnelles des seniors. Eh bien, le MEDEF ne tient pas compte de cet accord sur les retraites complémentaires qui indiquait cette mesure-là. Par contre, la CGT demandait une contribution sur toutes les ruptures conventionnelles concernant les seniors. La troisième chose, c'est que nous demandions le déplafonnement des cotisations pour tous ceux qui cotisaient au-delà de 12 000 euros par mois, hein, 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc ça concernait les hauts cadres dirigeants. Le MEDEF a refusé qu'on déplafonne. Je rappelle, selon la Cour des comptes, ça faisait rentrer 800 millions d'euros, d'euros dans les caisses de l'UNEDIC. Et enfin, la quatrième mesure que nous avions proposée, c'est de mettre enfin en œuvre ce qui existe dans la loi concernant l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, puisque, comme vous le savez, ce n'est pas en application malgré les quatre lois sur cette question-là. Et donc, le MEDEF, là aussi, a refusé de discuter de cette question-là. Donc, on est sur une fin de négociation. Il faut maintenir la mobilisation parce qu'encore une fois, l'État reprend la main et je crois qu'on peut encore avoir quelques surprises sur le sujet.
Oui, c'était Éric Aubin, donc CGTiste chargé des négociations UNEDIC pour la CGT. Vous reprenez cette émission pour ceux qui nous viennent de venir sur l'antenne. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Je suis avec Ludo et Claude à la technique. Rebonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
On va repartir un petit peu sur les conditions un petit peu générales de ces négociations inédites, Ludo, si tu veux bien. Alors, quels sont les thèmes, les problématiques qui se posent aujourd'hui aux différents syndicats et...
Alors, comme on l'a entendu là, d'un point de vue syndical, hein, c'est en priorité donc la taxation des contrats courts. On en reparlera tout à l'heure. Deux, le contrôle des chômeurs, mais ça pour le moment c'est pas encore dans la négociation. Trois, l'indemnisation des démissionnaires. Donc là les syndicats sont évidemment favorables à une large indemnisation, qui évidemment le patronat veut beaucoup plus restrictive. Le passage donc à la fameuse étatisation entre guillemets de l'UNEDIC. Alors on peut se demander si c'est pas la dernière négociation paritaire, mais ça on verra. Et ça on n'a pas beaucoup d'écho pour le moment. Et puis, alors le contrôle des chômeurs, je l'ai dit, mais le contrôle des chômeurs existe déjà. Donc voilà, et oui, l'indemnisation des professions indépendantes.
Auto-entrepreneurs et...
Voilà, et donc les syndicats sont réservés là-dessus, parce que je rappelle en fait hein, qu'il y a les faux indépendants, ce qu'on peut considérer comme des faux indépendants, c'est des gens qui en fait sont dépendants du donneur d'ordre, donc typiquement les gens qui travaillent pour Uber, hein, c'est-à-dire que c'est la plateforme en fait qui leur donne des clients. Donc ceux-là, évidemment, il faut les indemniser. Et puis il y a ceux qui sont réellement indépendants et dont le gouvernement et les syndicats voudraient éviter qu'ils fassent passer leur chômage, enfin leur baisse d'activité temporaire pour du chômage, c'est-à-dire reporter auprès de l'État une baisse d'activité, ce qui coûterait très très cher et bon, ce qui serait discutable. Alors pour mémoire, l'UNEDIC est aujourd'hui en déficit de 38 milliards. Comme je l'ai dit, elle a un déficit annuel de 3 milliards. Et la question, c'est comment financer désormais l'UNEDIC sur quelle base, sachant qu'en fait, les cotisations n'ont pas augmenté, n'avaient pas cotisations chômage, cotisations patronales n'ont pas augmenté depuis 30 ans.
Ça pose effectivement un gros problème. D'autant que moi, c'est pas vraiment dans le même sujet. Si c'est un même sujet, parce qu'en fait, il y a un petit peu une sorte de dichotomie entre ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas beaucoup, ceux qui sont pauvres, on va dire. Pour aller dans un petit peu dans ce système-là, le système un peu libéral de Macron, hein, c'est donc la révision du code du travail, les nouvelles lois sur la formation professionnelle, la remise en cause effectivement de l'assurance chômage, donc peut-être même que ça va disparaître, on ne sait pas pour le coup. Moi, j'ai envie de vous parler un petit peu des richesses parce que faut savoir que 10% des plus riches possèdent plus de la moitié des richesses. Donc, 50% des plus pauvres, par contre, se partagent 5% de la richesse mondiale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 41 personnes les plus riches qui possèdent exactement ce que pourraient posséder, faut bien se tenir, hein, 3,4 milliards d'individus au monde. C'est incroyable.
Donc, alors c'est le rapport d'Oxfam.
C'est tout à fait. J'allais le dire. Merci Ludo.
C'est plus ou moins critiqué, mais bon, oui, oui. Il y a plus d'autres études qui arrivent dans le sens notamment l'observatoire pour les inégalités, qui est mené par Piketty.
Tout à fait. Donc c'est quand même un peu impressionnant. Et là, on va encore rajouter un peu du mal au mal, hein, puisqu'on va encore indexer sur les plus pauvres, puisqu'on va leur prendre plus d'argent, on va moins les rémunérer, moins, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu. Voilà.
Alors concernant le contrôle des chômeurs. Je pense qu'on peut réécouter largement Muriel Pénicaud qui en parlait.
Merci.
Est-ce que vous allez aller vers un durcissement du contrôle des chômeurs ?
De quoi on parle ? La très grande majorité des demandeurs d'emploi, ils n'ont qu'un but.
C'est d'en retrouver un.
Retrouver un emploi et, j'allais dire, avoir la dignité, la fierté de vivre de son travail. Parce qu'un emploi, c'est pas simplement une rémunération, c'est aussi une fierté, c'est un lien social, c'est se sentir utile, enfin bref.
C'est 99% des gens, ça ?
À peu près les 250 000 contrôles qu'a fait Pôle emploi, c'était 86% des gens qui cherchaient très activement un emploi. Parmi eux, il y en a qui ne cherchaient plus, mais parce qu'ils étaient découragés. Donc ça, on le prend en compte. Faut pas. On peut aussi avoir des pépins de la vie, avoir un moment donné où on cherche plus bien. Mais bon, ça, il faut pas. Faut pas que le contrôle soit bureaucratique. Vous voyez ce que je veux dire. Faut que ça soit humain. Ça prenne en compte la situation réelle des gens. Mais on a quand même trouvé 14% des gens, ce qui n'est pas très étonnant, qui eux n'avaient aucun problème de découragement, avaient des compétences qui étaient tout à fait accessibles sur le marché du travail, qui cherchaient pas à bénéficier de l'assurance chômage. Bah, l'assurance chômage, c'est l'argent qui vient des cotisations des salariés, des employeurs et ça vient aussi de l'État. C'est comme l'URSSAF, c'est normal qu'il y ait du contrôle. Simplement, comme je le disais, le contrôle doit être bien fait. Alors simplement, quand
on
fait un contrôle,
ou pas, alors les barèmes ensuite sont très importants.
Un contrôle, qu'est-ce qui se passe quand on fait le contrôle? Bah d'abord, on découvre au passage ce qui s'est passé, qu'il y avait des gens qui étaient découragés. Donc du coup, ça permet de refaire des programmes pour les aider à, j'allais dire, rechercher activement de l'emploi. Donc le contrôle parfois amène à plus d'accompagnement, pas forcément une sanction.
Et pour la sanction,
pour ceux qui sont les fraudeurs, mais je parle de fraudeurs là. Bah, pour les fraudeurs, aujourd'hui, il y a plusieurs types de sanctions et c'est un peu étrange. C'est-à-dire, si vous rendez pas une convocation, un rendez-vous, vous pouvez être suspendu pendant 2 mois. Et par contre, si vous cherchez pas de travail, vous pouvez être suspendu pendant 15 jours. Donc, on va remettre de l'ordre de tout ça pour que ça soit plus logique, plus cohérent. Et encore une fois, plus d'accompagnement pour ceux qui cherchent l'emploi.
Décrivez-nous ce que ça donnera.
J'ai demandé aux partenaires sociaux
vous avez bien une idée, madame la ministre.
J'ai demandé aux partenaires sociaux et voilà. J'attends leurs propositions.
Vous leur soumettez
pour
quoi?
Début février.
Vous leur soumettez quoi comme sujet de dissertation?
Genre, soumets que nous devons à la fois mieux accompagner plus vite, parce que quand un demandeur d'emploi, c'est pas au bout de 6 mois.
La punition, ce sera quoi la nouvelle échelle de peine?
Et pour les fraudeurs, il faudra renforcer les sections et puis pas ta main tremble pas quand pour les fraudeurs. Mais c'est très intéressant, vous savez, les 14% là, il y a très très peu qui se sont réinscrits, hein, donc ils savaient qu'ils fraudaient.
Raphaël sur Twitter dit la chose suivante, madame Pénicaud ment dans Interactive, 60% des 14% des chômeurs sanctionnés ne touchaient déjà plus aucune allocation. Pardon. Christelle sur l'application France Inter, madame la ministre oublie de dire que sur les 14% de fraudeurs, seulement 60% sont rémunérés par Pôle emploi. Il faut être exhaustif quand on donne une information.
Ah, je peux donner tout le rapport entier, il y a aussi plein d'autres enseignements dans ce rapport. Je pense que
ces chiffres ou pas? C'est-à-dire d'une minorité, de minorité, de minorité.
Mon sujet, c'est pas... Comment dire? Le débat, les chômeurs, enfin, c'est un débat de fou. Ça n'a aucun sens de dire que s'il y en a qui pensent que la majorité des chômeurs ne cherchent pas un travail, ils se trompent complètement. Voilà,
c'est ce que les auditeurs vous disent.
Oui, mais je suis d'accord avec ça, c'est absurde.
Après, mais c'est sur les 60% des 14%, la minorité de la minorité.
C'est un contrôle juste sur 250 000 personnes. Moi, je ne sais pas le nombre de fraudeurs. On verra bien. Et j'allais dire, ce n'est pas un sujet budgétaire, c'est un sujet de justice, d'équité. Par contre, l'essentiel des efforts de Pôle emploi, il doit permettre d'accompagner. Et encore une fois, le fait d'avoir une discussion plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, souvent, la formation, on la propose qu'au bout de 6 mois. Alors, c'est ça qui va permettre de trouver un emploi. Il faut être beaucoup plus en amont. Et par contre, pour ceux qui, derrière, en fait, ne sont là que pour profiter du système, il n'y a pas de raison qu'ils y restent.
Eh oui, madame Pénicaud, se mélange les pinceaux, ce n'est pas grave. Alors, pour le coup, est-ce que c'est 60% des chômeurs qui fraudent, qui ne sont pas payés, ou c'est 40%?
Visiblement, c'est 60% des chômeurs qui sont pas indemnisés qui ont été contrôlés. Et ça veut tout dire.
Alors, est-ce qu'il faut contrôler tous ces chômeurs qui sont des feignants finalement pour
Écoute,
le coup
Moi, je pense pas. En fait, c'est pas du tout. Parce que je pense que les chômeurs fraudent pas du tout, du tout. C'est pas pour ça. C'est juste que au vu de, du ratio des gens qui ont été exclus du chômage, je trouve que ça coûte beaucoup d'énergie, de ressources à Pôle Emploi pour pas grand chose. Donc je rappelle que l'expérimentation, il avait fallu quand même détacher 200 salariés de Pôle Emploi pour contrôler des chômeurs, sachant que évidemment les salariés de Pôle Emploi n'ont rien d'autre à faire, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pas beaucoup de travail en ce moment, ça c'est sûr. Et donc du coup l'argument de Macron, c'est pour que le système soit équitable. Équitable, je veux dire, quand on est plus indemnisé pour 60%, et puis quand l'allocation doit pas être bien élevée, en quelque sorte, pour qu'il y ait réellement pour qu'il y ait des gens qui ne cherchent absolument
aucun
rien,
travail, oui,
ou alors elle est au contraire très élevée,
oui,
je sais pas,
oui.
Mais vous voyez, c'est où elle compte pas beaucoup, mais on peut s'étonner que les gens ne cherchent vraiment pas du travail, où elle compte énormément, et en fait c'est quand même des gens qui ont une chance de retrouver du travail, on va dire. Donc voilà, donc c'est quand même un débat un peu ridicule.
Alors excuse-moi, mais si on fait un peu de comptabilité, alors moi ça me fait rigoler ce qu'elle vient de dire, parce que si on regarde, ils ont porté leur étude sur 250 000 personnes, 250 000 chômeurs. Il y a 3 millions, plus de 3 millions de chômeurs en France. Ce ne sont que les chiffres.
C'est des expérimentations, c'est-à-dire que c'est pas national.
C'est pas national. Donc, en plus, ils ont porté leur étude que sur les inscrits, parce qu'évidemment les non-inscrits, ils n'avaient pas la possibilité de les joindre.
De toute façon, peu importe, puisqu'ils ne sont pas inscrits au chômage.
Tout à fait. Donc, mais ça veut dire quand même que le ratio, il est plus de 14%, et il tombe à 4, quoi.
À 7.
C'est
ça. C'est
ridicule, quoi, pour le coup, de contrôler les chômeurs sur.
Oui, mais on contrôle aussi les gens, les bénéficiaires du RSA. Ça. Bon, il faut juste rappeler que la fraude aux allocations sociales est ridicule par rapport à la fraude fiscale, à la fraude à la TVA. Et quand je dis ridicule, c'est que la fraude à la TVA se chiffre
en milliards, là où
la fraude aux allocations toutes confondues. Aux allocations sociales se monte à quelques centaines de millions et touche peut-être 1% des bénéficiaires, selon les chiffres de l'UNEDIC elle-même. Alors il y a eu un article qui est sorti dans Alternative Économique, qui tout en étant un journal de gauche, n'est pas un journal révolutionnaire, et qui parle effectivement du contrôle des chômeurs, et qui mettait en avant que évidemment qu'en fait on responsabilise le chômeur de sa situation en ne tenant pas compte du niveau global de l'offre d'emploi, puisque je rappelle que il y a un peu plus d'offres maintenant. On est peut-être à 300 000 ou 400 000 offres pour 3 millions de chômeurs. Donc ça fait pas tout à fait 10 fois moins, mais presque. Et donc du coup, le truc, c'est qu'actuellement, il est difficile, en fait, à moins de faire des contrôles très très stricts, d'imposer des sanctions plus lourdes que celles qui existent déjà. C'est-à-dire que, grosso modo, donc on a vu que ça concerne très peu de chômeurs, et il va falloir établir des preuves pour les chômeurs de la recherche d'emploi. Et donc établir des preuves, ça veut dire répondre formellement à des offres d'emploi, et c'est-à-dire représenter une activité écrite. Par rapport au travail informel de recherche d'emploi. On estime qu'aujourd'hui, d'après une étude de l'INSEE sur l'enquête emploi, seuls 17% des chômeurs, des gens en activité, ont trouvé leur emploi par Pôle emploi. Bon, 17, c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup, en fait. Alors, ça veut dire que les chômeurs vont devoir... il y a une espèce de contrôle administratif plus lourd, une paperasserie beaucoup plus lourde à remplir, qui, en fait, en termes d'efficacité, est pas énorme. Vous voyez, simplement parce qu'une large partie des offres ne passe pas par Pôle emploi. Il va falloir pour les chômeurs rentrer dans ces critères, ce qui risque de désavantager les gens les moins qualifiés, parce que finalement les cadres, eux, répondent à des offres parce qu'elles sont beaucoup plus rares, parce qu'elles passent par l'APEC, parce qu'on a besoin de critères assez précis pour des postes très spécialisés, alors qu'en réalité, tous les types d'emplois moins qualifiés passent de la main à la main, et aussi parce qu'ils sont plus nombreux et ils se passent pas forcément. On n'a pas besoin d'aller au bout de la France pour être vendeur de je sais pas quoi. Et donc du coup, ce type de contrôle va évidemment défavoriser les gens les moins qualifiés, qui sont le plus victime du chômage en fait. Donc voilà. Donc du coup, bon, c'est une petite étude comme ça, c'est un petit article, mais qui montre bien que l'efficacité des sanctions pour aller retrouver du travail, c'est vraiment voilà. D'abord, il y a rien qui établit que en mettant des sanctions ou en punissant les gens trouvent plus souvent du boulot. Et puis, en termes d'efficacité, donc c'est un côté très très idéologique en fait. Hein.
Oui, oui.
C'est vendeur politiquement, on va dire.
Oui, ça sous-tend surtout qu'on est là dans ce cadre-là, plutôt dans la punition, dans la morale. Voilà, on considère à tort ou à raison, je ne sais pas. Enfin, moi, je considère que c'est à tort que les chômeurs font pas le nécessaire pour trouver un emploi, alors que de l'autre côté, les employeurs ne font pas non plus leur travail, puisque dans un petit article que j'ai sous les yeux. On se demande si les recruteurs sont compétents pour juger si les chômeurs sont compétents en fait. Hein. Donc c'est tout simplement ça. Parce qu'ils sortent des grandes écoles un certain nombre de personnes qui vont devenir des RH, donc principalement pour licencier hein, dans les entreprises, hein, plus que pour travailler sur la gestion des forces humaines hein, pour le coup. Et donc là, c'est une question qui se pose parce que il y a quand même quand on posait la question de l'offre et de la demande. Hein, les employeurs disent souvent qu'ils ne trouvent pas de personnes qualifiées. Or, il y a quand même sur l'ensemble des chômeurs 1,6 million de chômeurs surqualifiés et surdiplômés.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une déqualification par rapport à l'emploi, l'adéquation.
Et d'autant qu'il faudrait travailler, alors ça, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais il faudrait quand même travailler sur le problème des seniors aussi, parce que à partir de 39 ans, on est senior, quoi, a priori. Donc, bon, on est censé quand même travailler jusqu'à 75 ans. ça pose un problème.
Je suis d'accord, mais sauf que le bataillon de chômeurs est en réalité... Enfin, le bataillon de chômeurs en devenir, c'est important. Ouais. C'est un nouveau concept. Là, pour... bon, enfin, que les gens vivent au quotidien, je vous rassure. C'est quand même les jeunes oui. déscolarisés et qui n'ont pas de formation.
Bien sûr.
Et c'est vraiment la grosse cohorte. Le fait que, l'argument, c'était quoi? C'était
avoir 39 ans, on est déjà.
Non, mais avant, c'était les gens très qualifiés
oui,
qui.
Un million six de chômeurs qui sont très qualifiés.
Ouais, alors c'est ça qui est un peu angoissant, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire qu'il y a les gens qui sont en formation qui statistiquement oui. Vont au chômage, mais après on pourrait dire qu'il y a une inadéquation entre l'offre de formation et puis les emplois, sauf qu'en fait les emplois évoluent quand même assez vite.
C'est vrai.
Et donc il y a toujours un temps de retard en termes de formation, et puis ça indique quand même qu'il y a un problème d'activité tout ouais. simplement, et donc de création d'emplois. Donc la lutte contre le chômage pris par le petit bout des chômeurs et par la responsabilisation des chômeurs, enfin de la culpabilisation des chômeurs, c'est toujours
Alors en même temps, tu as raison, il est vrai que ceux qui sont surqualifiés, des 1,6 million de personnes, les chômeurs en question, qui sont surqualifiés, sont quand même plus jeunes. Enfin, ils ont plus 18 ans. Ils ont déjà, comme ils ont fait de longues études, de longues formations, ils ont déjà... ils sont presque seniors, pour le coup. Ils ont arrêté leurs études à 27 ans, peut-être, ou 25. Alors que c'est vrai que la majorité des chômeurs jeunes sont les moins qualifiés.
Et sachant que, je veux dire, le fait d'être jeune est pénalisant sur le marché de l'emploi.
Tout à fait.
C'est-à-dire que vous avez 19 ans, 18 ans, et même quand vous sortez, vous êtes, on va dire, qualifié. Il faut vraiment être dans un secteur où il y a des besoins pour qu'on vous embauche comme ça. Et pour rebondir sur le cas des DRH, les DRH, finalement, ils sont là pour évaluer la personnalité de la personne, sa résistance psychologique, des choses comme ça. Et ça montre bien aussi l'ambiance qu'il y a dans les collectifs de travail, hein, en fait. Hein.
Et ça dénote aussi une sorte de, comment il y a quand même un principe c'est un retour de la lutte des classes, quelque part, parce que ceux qui sont chômeurs, jeunes, qui sont pas qualifiés, sont issus quand même de familles défavorisées, souvent de la banlieue rouge, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas.
Il n'y a pas que la banlieue rouge en France.
Il y a
des banlieues rouges.
Des banlieues rouges, et même d'autres couleurs, en fait, de banlieues blanches, si tu veux, enfin bref. Alors que
oui, de Versailles, c'est vrai. Des chômeurs de Versailles.
Il y a aussi des chômeurs à Versailles. Alors que effectivement, les surqualifiés, eux, en général, ils ont pu faire des études parce que leurs parents étaient déjà de la classe supérieure en termes de CSP, hein, on va dire ça comme ça, et habitant dans des quartiers un peu plus chics, j'imagine.
Merci. Oui, je voulais juste dire que le déclassement existe aussi, que on peut avoir être issu de bonne famille, avoir
des diplômes,
ou avoir plus ou moins de diplômes, ou ne pas avoir réussi à avoir totalement tous ses diplômes et se retrouver au chômage.
Très bien, je te remercie Ludo. On va passer une petite chanson. Merci. Eh oui, nous étions en Grèce pendant quelques instants, ça fait du bien de partir un peu en voyage. Nous revenons dans cette émission, c'est Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission mode d'emploi des chômeurs et précaires, avec l'Agence en contrôle chômage pour ce soir. Je suis avec Ludo au micro.
Bonsoir.
Rebonsoir Ludo. Bien évidemment Claude à la technique et Gilles également au micro avec vous. On va continuer donc sur effectivement les négociations UNEDIC, principalement sur donc c'est dans l'air du temps, c'est la taxation des contrats courts, c'est-à-dire que effectivement Macron considère qu'effectivement il devrait y avoir un bonus-malus pour les entreprises qui embauchent trop d'emplois courts.
Il voulait.
J'ai bien dit il voulait. Maintenant il veut plus. Mais tu vas nous expliquer pourquoi.
Alors oui, je voulais juste revenir sur les histoires de contrats courts parce que c'est vrai que bon, c'est peut-être très clair à l'idée des étudiants, hein, mais juste en chiffres, en 2016, donc c'est selon une étude de France Stratégie et de l'UNEDIC, les contrats courts représentaient 4 millions de CDD de moins d'un mois. Contre 1,5 en l'an 2000.
C'est énorme.
Donc c'est énorme et, ah oui. Et ça a explosé parce qu'effectivement à une époque plus de 70% des recrutements se faisaient en contrat court. OK. Or, il faut savoir que 8 sur 10 sont renouvelés par le même employeur.
D'accord.
Donc on parle bien du même employeur. Oui, oui, tout à fait.
Renouveler un mois, renouveler un mois ou renouveler
Ah mais renouveler alors justement, je vais en parler, le contrat d'usage est renouvelable tant que tu veux.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc, et certains secteurs ne tournent qu'à ça, notamment le secteur des sondages, entre autres. Sondage. Alors, normalement, non. Le bâtiment, en principe, c'est des contrats de chantier. D'accord. Et en principe, c'est l'intérim.
Pareil.
Mais effectivement, le bâtiment, c'est quand le chantier se termine. Alors, du coup, le coût pour l'UNEDIC est évalué. Oula, qu'est-ce que je raconte? Le coût pour l'UNEDIC est évalué à 3 millions d'euros par an. En fait, c'est le déficit annuel. C'est 3 milliards. Le déficit annuel. Donc voilà. Et donc c'est énorme en fait. Hein. Et donc on peut se demander pourquoi finalement faire porter la baisse en fait, hein,
oui, bien sûr.
Grosso modo, hein, de mécanique qui s'ensuit en fait d'indemnisation, parce que ça c'est le coût de l'indemnisation sur les chômeurs en fait, hein, puisqu'ils sont déjà victimes de la précarité. Alors, du coup, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un contrat court ? Il y en a deux en réalité. Il y a le contrat d'usage et la mission d'intérim. Donc, le plus flexible. Aujourd'hui, c'est le contrat d'usage. Le contrat d'usage, les avantages pour l'employeur, c'est de pouvoir recourir à des salariés ou à un salarié de manière répétée, sans limitation de durée.
D'accord.
D'accord. Et sans limitation d'usage des CDD, contrairement aux CDD classiques. De ne pas avoir de date de fin et de pouvoir remplacer le CDD par un autre salarié si on veut. Et il n'y a même pas de prime de précarité. Donc,
d'accord.
On peut effectivement se demander pourquoi tout d'un coup les CDD d'usage explosent avec de telles facilités de licenciement. Mais tenez-vous bien, désormais les modalités du CDD d'usage ne dépendent plus de la loi. C'est-à-dire que les ordonnances qui portent sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, texto, c'est le titre des ordonnances, concernant les contrats d'usage, sont renvoyés aux accords de branche.
Ils n'ont pas aux accords d'entreprise, aux accords de branche.
Aux accords de branche. D'accord. Oui, c'était une bataille des syndicats,
ils ont gagné
qui tenaient, voilà, qui ont gagné là-dessus. Mais on se demande bien, avec un tel de telles facilités, qu'est-ce qui va leur rester à négocier? Alors, je sais pas, mais jusqu'à maintenant, il y avait des secteurs réservés aux contrats d'usage. Tous les secteurs n'étaient pas ouverts aux contrats d'usage, malgré tout. Mais si avec l'intérim,
vous parlez de la restauration, de l'hôtellerie, compagnie.
Ah ben ils sont tous voilà, donc il y a par exemple le déménagement, l'hôtellerie, d'accord, effectivement la restauration, les centres de loisirs, l'activité foraine. Alors certains sont plus justifiés que d'autres, hein. Le sport pro, l'enseignement, le spectacle, l'action culturelle, l'audiovisuel, les exploitations forestières, la réparation navale, l'information au sens large, les pigistes, hein. Et les enquêtes, sondages, etc. Et je donne pas toute la liste là.
Oui. Donc, je crois qu'il y a 10 secteurs à peu près considérés.
13 en fait au total.
13 au total, d'accord.
Et donc, on se demande si, à part négocier un élargissement des domaines d'activité, voilà. Et l'autre aspect, donc, c'est l'intérim. Et l'intérim, donc, le contrat est un peu plus rigide, c'est-à-dire que on peut jouer à, on va dire, c'est un jour, on peut jouer sur la date de fin du contrat à un jour près, pour 5 jours. C'est-à-dire pour une semaine, vous avez un jour, vous finissez un jour avant, un jour après, et en fait pour chaque semaine qui passe, vous avez 2 jours. Et effectivement, dans la loi, le contrat d'intérim ne peut être que temporaire et ne pas utiliser indéfiniment. Bon, en réalité, comme on l'a vu, l'intérim est très utilisé dans le bâtiment puisque effectivement l'activité. Or, ce qui vu l'explosion en fait de ce type de contrat et vu le recours massif au contrat par le même employeur, évidemment, la taxation de ces contrats est une évidence. Mais enfin, parfois, on peut même se demander si dans certains domaines, est-ce qu'il y a vraiment une utilité d'avoir autorisé les contrats d'usage. Alors, je pense notamment à certaines choses comme les enquêtes, comme bon, voilà. Mais à la limite, taxer ce genre de contrat paraît effectivement pour en limiter l'abus, hein, parce que on peut parler d'abus dans certains cas quand vous employez les mêmes personnes pendant 15 ans ou 10 ans comme c'était le cas dans certaines institutions d'âge, sans en multipliant les contrats d'usage,
c'est démoralisant l'abus pour le salarié pour le coup.
Il perd en plus beaucoup d'argent.
Il perd de l'argent.
Et puis c'est l'assurance chômage qui compense, hein, la baisse d'activité dans ces cas-là. Alors que par exemple, pour prendre le contre-exemple, les informaticiens, eux, ils ont des périodes d'intercontrat où ils sont payés. Alors voilà, on va dire qu'un informaticien, il rapporte 3 fois plus que un type qui fait des sondages. Éventuellement. Voilà. Et donc, on en est où, en fait, parce que c'est quand même la question, à l'UNEDIC. Donc, tout le monde est pour la taxation des contrats courts, à fond, y compris le président de la République. Mais évidemment, le MEDEF est contre.
Bah, évidemment.
Bien entendu. Et il est contre, et il a fait valoir ça auprès du président.
Et pour quelle raison il est contre, pour le coup, alors?
Parce qu'il pense que ça changera rien. Que ça rapportera pas beaucoup plus d'argent à l'UNEDIC. Et surtout, ça n'en limitera pas l'usage, puisque l'usage, pour lui, est évidemment une nécessité économique. Et donc, il ne veut pas alourdir la facture auprès des employeurs. Donc, ce qu'il propose là en ce moment, c'est simplement de faire un état des lieux statistique par secteur. Donc, par secteur, il y a des gens qui vont tenir un tableur pour compter, j'espère qu'ils compteront bien, c'est bon.
Le nombre de jours travaillés par salarié.
Le nombre de jours travaillés, le nombre de contrats, etc., etc. Et d'en faire un bilan. Et en résumé, hein, de reporter ça la prochaine fois et d'en faire un bilan quantitatif et qualitatif. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière ce mot. Mais bon, globalement, l'idée, c'est que la réforme soit reportée à la prochaine négociation ou pas. Et donc, concernant ce point-là, ça fait combien de temps qu'on parle de la taxation des contrats courts? Ça fait bien...
Ça fait plusieurs années.
Donc, il faut bien imaginer que c'est dans un contexte où les cotisations patronales n'ont pas augmenté ou pratiquement pas depuis 30 ans.
Oui, effectivement.
Voilà. Donc effectivement, la négociation s'annonce mal sur ce plan-là. Et puis surtout,
Mais pourtant, excuse-moi de te couper, mais il me semblait quand même que c'était quand même pas, s'il y avait eu la volonté politique, mais je crois que Macron n'était pas dans cette optique-là, mais la volonté politique d'encadrer par la loi éventuellement l'exagération d'emploi court, ça aurait pu être fait aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire effectivement à un patron, écoutez, le minimum c'est 2 mois, 3 mois.
Oui, mais si on renvoie ça, tout ce qu'on fait à la négociation collective ou à la négociation paritaire, Non. Donc, il y a une chose qui est vraie, c'est que la convention UNEDIC doit être agréée. Et donc, à la fin, effectivement, le gouvernement pourrait imposer. Ça, c'est vrai. Mais faut-il qu'il le veuille vraiment? Et le, pour le moment, enfin, les choix de M. Macron vont pas dans ce sens.
Bien sûr. Ben, merci Ludo. Alors moi, j'ai quand même une chose à dire, c'est qu'effectivement, Macron, le président des riches, est le président du chômage. Hein, donc c'est un petit article qui vient de sortir. Hein, je ne sais pas d'accord d'où ça vient, mais c'était sur, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est Gérard Darmanin qui parle et qui dit qu'effectivement que c'est l'alignement des cotisations sociales, hein, vont redonner du pouvoir d'achat aux Français. Donc apparemment, à part le point de CSG qui va permettre justement de, puisqu'il y a aussi comment on appelle ça, la taxation des comment des pour les employeurs, enfin pour les comment on appelle ça, les logements, hein,
Les logements. Donc, oui, le nouvel impôt
par rapport au logement, tout justement. Ça. Donc là, pour le coup, on va prendre juste un salarié qui est au salaire minimal, hein, donc on va dire 1146,19 €. Hein, à partir d'octobre, donc tenez bien, il faut noter, hein, à partir d'octobre 2018, il touchera 1160 € à la place de 1146 €, donc à peu près 23 € de supplémentaire. Voilà. Et après, il touchait 1124,50 €, il va toucher 1160,42 €, donc une augmentation de 36 € par mois. Hein. Donc, avec 36 €, il va pouvoir aller au restaurant, ça va être super sympa. Mais
c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup, donc il peut pas avoir une forte augmentation.
Donc tout ça pour une augmentation de 36 €, je trouve que...
Oui, et rappelons d'ailleurs que l'INSEE n'est pas tout à fait d'accord avec ce calcul.
Voilà, donc, en plus voilà. Donc, c'était un peu dur pour cette fin d'émission, mais tu peux nous dire, il y a
une petite
annonce à faire.
Oui, je voulais faire un petit coucou aux salariés de l'hôtel Holiday Inn de Clichy, donc aux femmes de ménage en fait, qui ont dépassé les 100 jours de grève et qui ont enfin été reçues par la direction. Il en a fallu un peu de temps et on commence à parler de les prendre non pas en sous-traitance, mais de les réintégrer dans l'Holiday Inn. Bon, évidemment, sauf que la direction a mis la condition d'expulser un meneur syndical. Donc l'accord a capoté, mais en tout cas, bon courage. Et comme quoi, la lutte paye des fois.
Très bien, ben, on finit là-dessus. Merci Ludo pour m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à Claude pour la technique. Voilà, donc cette émission se termine. Je vous demande de rester vigilants et de ne rien lâcher, évidemment. Je fais un gros bisou aux filles et une poignée de mon garçon. Ciao.